Ça fait maintenant plus d'une semaine que je n'arrive plus à dormir du sommeil du juste. À juste titre. Parce qu'il fait froid. Très froid. Mes pensées vagabondent du côté de la jungle et pas celles de Mowgli. Pourtant, il en faudrait peu à eux aussi pour être heureux. La situation n'est pourtant pas nouvelle. Là-bas, y règne pêle-mêle la peur, l'injustice, la faim et l'espoir des enfants venus de loin, bloqués et malmenés à la dernière étape de leur périple. Ils viennent avec juste leur désir de vivre. On leur oppose une réponse répressive. Sous couvert d'économie de la ville, de politique ping-pong, transmanche hypocrite, de décisions parfois purement électorales, de patriotisme exacerbé. Mais bon, c'est compliqué à leur expliquer ça. Ils comprennent rien. On leur dit pourtant qu'il faut pas venir, quoi. En même temps, on a beau leur gueuler dessus, ils parlent même pas français, ces petits cons. C'est vrai, quoi. Que peut comprendre à la vie un môme qui, à peine 20 ans, a juste vécu l'exil, le cauchemar d'une mer traversée sur un petit bateau en plastique, la solitude affective, la douleur physique et celle morale du rejet? Non, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils gênent la future réélection de la blonde de Calais. Bien sûr, d'autres facteurs entrent en jeu dans cette histoire, mais quand même, cette phrase « Puisqu'ils ne veulent rien donner à la France n'a rien à leur donner. » Waouh ! Elle est terrible celle-là, Natacha. Joli raisonnement. Et même si t'es estampillé LR, c'est très République en marche, ce côté donnant-donnant. Je t'aide si t'es potentiellement rentable, sinon va monter ta start-up ailleurs. En attendant, ça gêne le touriste. C'est pas glamour sur les prospectifs d'une ville balnéaire. Et parce qu'ils ne demandent pas à rester sur le sol français, ils ne seraient donc pas dignes de recevoir une couverture, une soupe, un accès aux toilettes. Elles sont françaises, les toilettes, d'accord? La dignité, elle, j'en suis pas sûre. Elle n'est pas du côté bleu-blanc-rouge, la dignité. Et les assos, qui au fur et à mesure des articles de presse locale et nationale deviennent, paraît-il, radicales, voire violentes. Bah oui, on ne dit pas assez que ça peut faire mal une louche de soupe quand elle dérape. Un duvet distribué est devenu une arme de destruction massive à haut potentiel de carnage. Alors faut éradiquer tout ça. Les gens ont peur. Pas tous. Il y a des rayons de soleil. Le dernier que j'ai croisé a les cheveux qui en ont la couleur. Elle s'appelle Sophie. Sophie met en place une magnifique idée qui nous vient de Belgique d'ailleurs. Il s'agit d'offrir une pause, un week-end, un instant de répit où, sortis de leur jungle, ces réfugiés peuvent pendant quelques heures se faire beau dans la glace, danser, regarder un match de foot, faire des tournois de puissance 4, dormir au chaud et sans peur, manger tranquillement et même aider dans la cuisine s'ils en ont envie. Bref, avoir de nouveau 20 ans et l'insouciance qui va avec. Et puisque Sophie est là, cool, avec nous dans ce studio, je vais couper court à ce billet pour lui laisser du temps. Écoutez-la, les loulous, après un petit slam. C'est important.
On verra. On verra qu'ils se disent. On n'a jamais essayé. C'est l'occasion de faire la bêtise. Allons-y, partons voter. Il en fallait des tonneaux de bière pour que leur cerveau se mette en jachère. Combien de temps déjà passé depuis que l'apéro a commencé? 70 ans depuis Pétain. La gueule de bois, c'est pour demain. On verra qu'ils se disent, après ils se tairont. L'extrême droite toujours canalise la liberté d'expression. Il en fallait des médias de masse pour faire la désinformation, massue assommante qui ramasse les électeurs du mauvais front. Combien de temps déjà passé de racisme anti-immigré depuis les politiques austères? La gueule de Faf, c'est depuis hier.
Tu dis que les autres, on les a déjà essayés, mais c'est comme la pub à la télé, au bout du compte, toujours frustré, que pour toi ça n'a rien changé, t'es resté dans tes fringues étriquées, que ça te gratte aux entournures qui t'ont roulé dans la farine, alors pourquoi pas essayer le costard bleu marine, on verra. Tu dis que finalement, de populiste à populaire, t'as plus envie de nuancer. Ras-le-bol, faut changer d'air quand on peut plus respirer, puis c'est vrai, toi t'aimes bien la nouveauté, on verra. Tu dis qu'il n'y a plus de fric pour tous, ben oui, faut savoir compter. Faut voir tout ce que l'on verse pour accueillir ces immigrés, que ton compte en banque aussi, afin autant que les ventres vides à pleurer de cette bande de chiens parasites, que ton passeport est français, que c'est à toi d'en profiter. On verra. Tu te sens comme un petit scout qui a besoin d'une cheftaine, et si ton totem c'est le FN, ce sera la MacGyver de tes problèmes, ton gosse au chômage, les fins de mois qui tirent la gueule, les trottoirs pollués des pas comme toi, la jeunesse gueulante et énervée, elle va mettre de l'ordre dans tout ça. Alléluia, on verra. Moi, je sens que ton envie de propreté au parfum chic labellisé français laissera dans son sillage une odeur bien dégueulasse qui me donnera la nausée. Moi, je sais que la liberté, c'est comme la chaleur de l'amitié. C'est seulement quand on te la retire que tu t'aperçois qu'il fait froid. Tu crois encore au Père Noël, t'as commandé une vie plus juste, enfin plus juste pour toi quoi. Ta liste est longue, t'es éligible au cadeau de l'État puisque toi t'es né au bon endroit, alors t'y crois, on verra. Tu te sens mieux quand ta porte est fermée, bien en sécurité, on sait jamais avec tout ce qui traîne. T'aimes pas la mauvaise graine quand ça s'installe, ça envahit. Un vote en forme de clé haute sécurité, en voilà une bonne idée, on verra. T'es paumé dans tes références entre Molière et Mickey, les frites et le kebab, à qui peut-on se fier? Tu vas aimer qu'on te dise ce qui est normal ou pervers, ce que tu as le droit de regarder, de bouffer, d'écouter, de danser, de fantasmer. Oh putain, ce que tu vas aimer, on verra. Moi je sens que ton envie de propreté au parfum chic labellisé français laissera dans son sillage une odeur bien dégueulasse qui me donnera la nausée. Moi je sais que la liberté c'est comme la chaleur de la fraternité, c'est seulement quand on te la retire que tu t'aperçois qu'il fait froid. Tu dis que le bleu, le blanc, le rouge va si bien au teint des blondes platines qu'en matière de couleurs, il n'y a pas à hésiter. D'ailleurs, ta femme est d'accord avec toi, elle est toujours d'accord, de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle vient de se faire décolorer, faudrait pas qu'elle devienne comme ces pétasses qui ferait mieux d'apprendre à faire à bouffer. Non mais où va la France? Même le bon poulet du dimanche est en danger. On verra. Et tous ces couples décadents qui peuvent même pas faire d'enfants. Enfin bon, tu le comprends. Ils n'ont que le plaisir à la bouche dans des lieux qu'il faudrait brûler. D'ailleurs, faut voir ce qu'ils écoutent. Mais relève-toi, Charles Trenet, tu n'en peux plus de cette déchéance. Hein, Marine,
qu'est-ce que t'en penses?
On verra. Tu dis que la France est sale, que t'as enfin une chance de pouvoir la nettoyer. Tu frottes, tu frottes, tu frottes avec ton bulletin de vote au senteur de Monsieur Propre et que ça va de nouveau briller, tu vas pouvoir te regarder dedans. Participer à la grandeur de ton pays, tu vas pouvoir en être fier en brandissant ta serpillière. On verra. Moi, je sens que ton envie de propreté au parfum chic labellisé français laissera dans son sillage une odeur bien dégueulasse qui me donnera la nausée. Moi, je sais que la liberté, c'est comme la chaleur de l'amour. C'est seulement quand on te la retire que tu t'aperçois qu'il fait froid.
On verra qu'ils se disent, mais pour moi, c'est tout vu que ceux qui ne me croient pas relisent nos pages d'histoire les plus tordues. On verra, t'es sûr ? En même temps, t'emploies le futur, tu te lances comme un aveugle sans canne qui fonce tout droit en plein Paname. Tu verras sans doute trop tard, tu verras si tu pourras te regarder dans un miroir lorsque surviendra le froid.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus.
Sophie Gigot, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, philosophe, auteur de L'immigrant de Calais, c'est sorti en 2016, je crois. Et bon, bah, pour des raisons que tu vas nous expliquer, tu as une bonne connaissance de la jungle. Depuis combien de temps?
Non. Oui, effectivement. En fait, moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le Pas-de-Calais et je prenais le train, la ligne Lille-Calais tous les jours. Et à partir de 2014, je voyais de plus en plus de monde... Voilà, avec des bottes crottées qui venaient de pays lointains, qui étaient dans le train. Et bon, cette ligne avec tous les problèmes liés à la SNCF, les pannes, les trains supprimés, ça crée des liens de se retrouver pendant quelques heures dans la gare glacée d'Hazebrouck au milieu de nulle part. Donc j'ai commencé à discuter avec ces gens-là. Et puis je me suis rendu compte qu'ils avaient des histoires extraordinaires à raconter. Et donc au début, je me suis dit que j'allais les écrire, les collecter. Et puis, bah, avec mon œil de philosophe, c'est devenu autre chose. Et j'ai passé à peu près un an en 2016, tout le courant de l'année 2016, dans ce qu'on appelait à l'époque les jungles, c'est-à-dire des campements, en fait, des espèces de bidonvilles, à Calais et puis aussi à Noranfonte, pas très loin d'Isbergues, pour rencontrer ces personnes et pour discuter avec elles. Ça a donné le livre Les migrants de Calais, qui était un livre dont le but était de décrire la situation à partir de leur point de vue.
Parce qu'en général, on parle des migrants dans la tête des gens, c'est une masse. Toi, c'est devenu vite des personnes. Et puis, c'est presque devenu, à un moment donné, des amis, en tout cas pour certains d'entre eux.
Oui, alors quand j'ai écrit le livre en 2016, j'avais la position du chercheur, donc j'étais très à distance. Et puisque je sollicitais en eux, ce n'était pas leur statut de victime, comme le font souvent les journalistes ou ou parfois contre eux, ou de manière inconsciente, les bénévoles, moi, je venais très humblement solliciter leur expertise. Puisque je supposais que, étant donné ce qu'ils vivent, ce sont les experts du terrain, les meilleurs experts de la situation. Et donc, j'étais vraiment dans l'analyse politique et autres qui pouvaient me délivrer. Et puis, depuis le mois de juin, je suis retournée à Calais, le mois de juin dernier, c'est-à-dire 6 mois, 8 mois après le démantèlement des campements. La dispersion des migrants dans les centres d'accueil et d'orientation, qui était censée faire disparaître le problème migratoire, comme on dit à Calais. Et je me suis pris une claque.
Oui.
Aussi importante qu'en 2016, pour d'autres raisons. Quand j'avais découvert la jungle, j'avais été ébahie. Et là, en y retournant au mois de juin, je me suis repris une claque, une bouffée de réalité la plus sordide qui soit. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être 1000 fois pire que ce que j'avais vu dans la jungle.
Parce que beaucoup plus de violence, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que changement de gouvernement, et il y a une certaine continuité dans la politique de dissuasion qui vise à empêcher les migrants de rester, mais elle s'est vraiment accrue en violence et en difficulté pour eux, puisque pour empêcher ce que le gouvernement appelle les points de fixation, la force publique est utilisée de manière extrêmement virulente. Donc il y a quand même des actes anticonstitutionnels qui sont commis jour et nuit, quotidiennement, à Calais, n'en déplaise à notre président, et dont énormément de personnes sont témoins, qui sont même d'ailleurs filmées. Enfin, voilà, on a toutes les preuves possibles et imaginables, ce n'est pas le problème. Et donc ce que j'ai vu, c'est des gamins, souvent très très jeunes, tu disais 20 ans, 14, 15, oui, qui erraient dans les bois, et dont les maigres effets personnels, couvertures, tentes, chaussures, étaient systématiquement raflés par la force publique à peu près tous les 2 jours.
Alors tu parles à l'imparfait, tu penses qu'aujourd'hui c'est terminé ?
Alors c'est absolument pas terminé.
Avec le froid en plus.
Voilà. Oui. Le plan grand froid à Calais consiste à rafler les tentes et les sacs de couchage, toujours dans l'optique de les empêcher de rester, sauf qu'évidemment, ils n'ont pas d'alternative.
Donc aujourd'hui... Il peut y avoir des enfants de 16, donc à partir, même plus jeunes, qui dorment dehors, sans manteau, sans chaussures, sans tente, sans rien dans le bide, sans rien.
C'est
Et
ça.
Ça, c'est à une heure d'ici, quoi.
Exactement.
Donc ça, c'est le constat. Évidemment, comment peut-on ne pas être révolté ? Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'étonnera toujours. Enfin, voilà. Bon, là, après, on va parler d'un truc un petit peu plus positif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Tu as rencontré quelqu'un, un immigré, qui lui est parti en Belgique, c'est ça ? Tu as voulu avoir des nouvelles, et là, bah ça c'est quelque chose d'un petit peu plus souriant, et qui va nous aider.
J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, parce que là, en retournant donc à Calais en juin, j'ai sympathisé avec un certain nombre de migrants éthiopiens, on est devenus amis au fil du temps, et je les ai suivis de Calais à La Chapelle et à Bruxelles, puisque maintenant les Éthiopiens ou les Soudanais qui veulent passer en Angleterre sont obligés de le faire via la Belgique. Et j'étais très inquiète pour mes amis. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, tu sais, c'est formidable. En Belgique, tous les week-ends, des familles nous accueillent et personne ne dort dehors. Il n'y a pas de jungle, il n'y a pas de conditions aussi difficiles, de dénuement. Et donc, ils m'ont donné l'adresse Facebook de la plateforme d'hébergement citoyen à Bruxelles, et j'ai découvert qu'il y avait 30 000 personnes qui, depuis un an, hébergeaient des milliers de gars tous les week-ends.
Incroyable.
Et donc, je suis allée rencontrer Mehdi Kassou, voilà, qui est l'un des fondateurs, et qui m'a expliqué qu'ils ont commencé à en héberger 15, 30... 100, et puis quand les médias les ont couverts, très très vite, c'est devenu 30 000 personnes, des chauffeurs qui viennent à Bruxelles les emmener à leurs hébergeurs sur tout le territoire de la Belgique.
D'accord. Tu reviens en France, enfin, je ne sais pas si tu es partie en Belgique, mais en tout cas, depuis la France, là, tu tentes le coup.
Alors,
comment ça s'est passé ?
Donc, je vais en Belgique, je vais vraiment me rendre compte, et je reviens en France, et je me dis, mais finalement, ce qu'on fait, nous, du point de vue personnel, il faut le faire collectivement. En plus, dans le Nord, on a des traditions d'accueil. Il y en a d'ailleurs dans toutes les régions, ce n'est pas le souci. Donc, il faut mobiliser des personnes. Et on a créé un collectif, un réseau citoyen qui s'appelle Migraction 59. et qui propose cet hébergement ponctuel. Donc ça consiste en quoi, très concrètement? Des chauffeurs vont le samedi matin ou parfois le vendredi soir chercher des migrants à Calais, les ramènent sur la métropole lilloise. Alors on a aussi des hébergeurs sur la côte, il y en a aussi à Béthune, donc on est en train d'essaimer un peu partout dans la région. Et ça permet d'offrir du répit à ces jeunes garçons qui vivent dans des conditions qui mettent à l'épreuve leur survie.
Je dirais presque qu'ils ne vivent pas.
Oui,
qui survivent comme ils peuvent.
Voilà, à la limite, étant donné en plus le très grand froid en ce moment. Donc ça leur offre un petit peu de répit le temps du week-end. C'est assez peu contraignant finalement pour nous, puisque ce sont des gens qui ne cherchent pas un accompagnement, qui ne cherchent pas un hébergement de longue durée, puisque leur but, c'est de passer en Angleterre, pour une raison très simple, qui est que, étant éthiopien ou soudanais, la probabilité qu'ils obtiennent l'asile en France est quasi nulle. Et l'immense majorité d'entre eux ont laissé leurs empreintes dans d'autres pays. Ils sont ce qu'on appelle dublinés. Et donc, s'ils demandent l'asile en France, eh ben, ils seront rebasculés vers l'Italie ou des pays très accueillants, comme la Hongrie. Voilà. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, ils aimeraient bien rester en France, mais n'en déplaise à Madame Bouchard, effectivement, ils sont bloqués en transit et ils essayent de passer en Angleterre parce qu'ils savent que là-bas, ils vont être accueillis, ils auront l'asile, ils auront une vie normale.
Nous sommes en direct avec Sophie Gigot, donc auteure notamment du bouquin « Migrants à Calais, une vie en transit ». Est-ce que on voit pas trop souvent cette question des migrants d'un point de vue moral? Voilà, souvent on entend les deux côtés. Il y a un côté qui dit ouais, c'est des gens, ils viennent bouffer notre pain, et de l'autre côté, des gens qui disent non, mais on doit accueillir, il faut qu'on soit gentil, etc., etc. Est-ce que c'est pas fondamentalement une question politique?
Alors, moi, je comprends jamais la dissociation qu'on fait entre morale et politique. C'est une question que je m'étais beaucoup posée à l'époque, par exemple avec les no-borders, qui étaient toujours opposés aux bénévoles. Alors qu'en fait, ce que les no-borders font sur place, c'est à la fois une action politique très militante, mais ce sont aussi des sentinelles qui protègent, qui veillent sur les migrants, et ça, c'est quelque chose de moral. Donc pour moi, cette distinction, de toute façon, elle ne tient pas. En revanche, c'est clair que quand on a créé le collectif, quand on a créé le réseau citoyen, qui n'est pas une association humanitaire, c'était pour dire, voilà, nous, on n'est pas des bénévoles, on n'est pas dans une démarche strictement humanitaire. Pourquoi ? Parce que le problème de la démarche humanitaire, il y en a deux. Premièrement, c'est que ça maintient de façon vraiment très forte l'asymétrie entre nous et les migrants. Mmh. Alors que quand on les ramène chez nous, ben ça la casse pas, hein. Puisqu'évidemment, ils repartent et puis en plus, on les ramène dans des baraques, etc. Alors qu'ils n'ont rien, donc l'asymétrie, elle persiste. Mais enfin, on partage des moments, on partage le repas, on vit ensemble quand même pendant deux ou trois jours. Donc ça réduit l'asymétrie. Et puis la deuxième chose, c'est que la vocation de migration, c'est pas de se substituer à l'État. C'est pas de dire, ok, vous ne faites rien, ben c'est pas grave, vous pouvez nous sous-traiter l'accueil parce que nous, on est vertueux, on a un certain nombre de qualités morales, donc on va le faire à votre place. Non, c'est un pouvoir d'interpellation, c'est de dire, attendez, regardez, on a une force de mobilisation, on est capable de les prendre chez nous, parce qu'on est capable de vivre avec eux. Donc, si vous comprenez ça, et la force politique qu'on représente, parce qu'on est en train de se compter, parce qu'il y a des gens qui font ça dans la France entière, bah vous comprendrez que, un...
Cédric Héroux, par exemple.
Exactement. Il faut... Et puis plein de gens anonymes, c'est ça qui fait la force du mouvement.
Voilà, c'est ça, c'est le nombre de gens anonymes qu'il faudrait chiffrer un jour pour...
Non, il ne faut pas chiffrer, justement.
Mais qui héberge des sans-papiers depuis 40 ans, qui héberge les migrants en transit dans la situation très particulière de Calais. Et donc, ce mouvement dit... Cette politique migratoire, d'ailleurs, il n'y en a pas, en fait, puisqu'elle est sous-traitée au ministère de l'Intérieur. Mais donc, la manière dont la migration est gérée en France, ce n'est pas fait en notre nom. Nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Et donc, on représente une force d'opposition politique, alors qui ne relève pas de la désobéissance civile, parce que concrètement, ce qu'on fait, ce n'est pas illégal, c'est parfaitement légal. Je rappelle que le délit de solidarité, il a été dépénalisé en 2012. Ce qui est illégal, c'est le passage des frontières, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, on adresse un message aux politiques qui consiste à dire qu'il faut à la fois une vraie politique d'accueil des migrants en transit, et puis il faudrait peut-être réformer le droit d'asile, mais pas comme ils sont en train de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui aimeraient qu'on donne à ces gens l'asile, parce que nous, on est prêts à vivre avec eux.
Oui, mais d'accord, vivre avec eux, mais pourquoi ils viennent ? Et toi, tu es confronté à eux. Quand je dis confronté au sens noble du terme, tu échanges avec eux, tu les vois, et on est un certain nombre sans doute, y compris de l'autre côté des ondes, à échanger avec eux. Pourquoi ils viennent ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité ? Là, je ne parle pas de morale, encore une fois, mais de responsabilité politique, dans la mesure où les gens qui viennent ne viennent pas non plus parce que c'est pas du tourisme.
Je me souviens qu'un jour, mais c'est parce que je faisais un entretien dans le cadre de mes recherches, j'avais posé la question à un Syrien, pourquoi es-tu là ? Pourquoi viens-tu ? Et là, il m'avait regardé, il m'avait dit, t'es sérieuse ?
Donc, c'est toi qui dois le savoir, en fait.
C'est ça. Donc il y a des moments où la question ne se pose pas. La question, c'est pourquoi est-ce que l'OFPRA accepte de donner facilement l'asile à des Érythréens qui fuient la dictature lorsqu'ils sont chrétiens, déjà nettement moins lorsqu'ils sont musulmans. Pourquoi est-ce qu'on accepte de donner l'asile à des Érythréens et pas à des Éthiopiens qui se trouvent de l'autre côté de la frontière et qui ont un régime qui est quand même très compliqué, avec du nettoyage ethnique vis-à-vis des Oromos, avec une oppression des Amaras parce que le pouvoir est confisqué par une autre ethnie, etc. Donc évidemment que ces gens-là, vous vous rendez compte, ils sont très jeunes. Ils ont quitté leur famille. Ils ont quitté leur père et leur mère quand ils en ont encore. Ils ont quitté leur pays. Ils arrivent dans des endroits dont ils ne connaissent ni les mœurs ni la langue. Ils sont à la merci de tout. Et ça peut pas représenter un luxe du point de vue politique. C'est pas possible. Ils sont là sous une contrainte terrible. Leur vécu est un vécu de violence et d'insécurité permanente. Donc comment est-ce qu'on peut douter de la motivation qui les a conduits jusqu'ici ? Cette idée de tri entre les bons et les mauvais migrants fait partie, encore une fois, c'est un héritage de la vision colonialiste qu'on a en France de l'immigration. Elle a une histoire, c'est une rhétorique politique qui ne fonctionne pas, qui ne correspond pas à la réalité. Et j'ajouterais que le problème de la France et d'autres pays, mais je parle de la France en particulier, c'est que notre politique vis-à-vis de l'immigration, c'est une politique qui date des années 70 et qui est complètement désuète et inadaptée aux questions migratoires actuelles.
Moi, je ne voudrais pas quand même qu'on oublie malgré tout le côté déshumanisation qu'on est en train de faire systématiquement pour toute personne qui arrive en ce moment à Calais. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois à se faire pourchasser comme des bêtes, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est pas neuf, mais à ce point-là, je me demande quand même si on n'est pas arrivé à quelque chose d'extrême.
Est-ce qu'il y a un saut qualitatif, politique ?
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que la violence même policière, ou voire même de ceux qui sont de citoyens qui sont en colère, cette violence-là, maintenant, elle est admise, voire adoubée par l'État. Et je pense que vis-à-vis de cette violence-là, il y a aussi un mouvement profond de gens qui veulent réparer comme ils peuvent. Et migration, c'est une petite façon de réparer. Je voudrais dire que ça fait du bien aussi. Quand on accueille ces gens-là, ça nous fait du bien à nous aussi, vis-à-vis de ça. Parce qu'on a, personnellement, je ne suis pas très très fière de ce qui se passe. Donc, comment réparer personnellement, c'est une façon de le faire.
Alors d'abord, j'insiste bien, ce n'est pas une violence policière, c'est une violence d'État. Parce qu'il y a des policiers sur le terrain qui souffrent énormément des consignes et
des ordres qu'on leur donne.
Exactement. Donc c'est une violence d'État qui se répercute. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui refusent, par exemple, de prendre les tentins. Mais c'est très compliqué. Et il y en a qui demandent leur mutation parce qu'ils ne supportent plus la situation. Donc c'est une violence d'État. C'est pour ça qu'elle est plus difficile, d'ailleurs, à déraciner. Et effectivement, on est face à des migrants qui souffrent parce que le seul contact qu'ils ont avec l'État et avec la puissance publique, c'est ce contact de très grande violence via les représentants de l'État que sont les policiers. Donc c'est très déconcertant pour eux, notamment lorsqu'ils arrivent chez nous et qu'ils se disent c'est la France, la patrie des droits de l'homme, etc., avec ce genre de fantasme. Et ils se rendent compte que leur contact avec l'État, c'est ça. Bon. Je me souviens que l'un de ceux qu'on héberge, ou qu'on a hébergé récemment, disait « Ce qui est formidable pour nous avec Migration, c'est que ça brise l'isolement. » C'est pas seulement le confort matériel, le fait de pouvoir se doucher, laver ses vêtements, dormir dans un lit. Beaucoup nous disent que ça fait 8 mois, 1 an qu'ils n'ont pas dormi dans un lit. C'est surtout de briser l'isolement et d'avoir affaire à des Français autres que avec des tenues anti-émeutes, le bouclier, complètement déguisé de façon très brutale, de pouvoir parler à des gens de façon normale, en fait. Et ça, je pense que c'est aussi très important et c'est ce que Migration apporte. Alors, effectivement, c'est une manière pour les citoyens, ça leur donne l'opportunité de réagir face à ces violences policières. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens aussi qui ne veulent pas y croire.
Quels sont les freins, justement, pour que les Français ouvrent leurs portes ? Notamment, là, les lois.
C'est peut-être des freins internes, finalement, parce qu'on fait de l'anthropologie sur les autres. On devrait peut-être en faire un petit peu sur nous-mêmes. Hein.
Quels sont les freins, quelles sont les peurs ? Est-ce que quand on a des enfants, par exemple, c'est dangereux ?
Alors, ce sont des peurs qui sont entretenues, notamment par les médias, je suis désolée de le dire, mais par exemple, très souvent, on voit dans la presse l'idée du délit de solidarité. Donc les gens, quand ils nous rencontrent, ils nous disent « mais vous êtes sûr, c'est bien légal ?» Bah oui, le délit de solidarité, ça n'existe plus. Donc ça, c'est une peur qui est entretenue. Ensuite, évidemment que ces jeunes, très souvent, les médias se focalisent sur les quelques rixes qui ont lieu. Moi, ce que j'ai toujours trouvé extraordinaire à Calais, c'est comment c'est possible de mettre ensemble 800 gars qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent de pays, de cultures différentes, dans des conditions de dénuement total. Comment c'est possible que ça pète qu'une fois tous les 6 mois ? Ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, on les présente comme des espèces de sauvages, de gens qui sont à la limite des prédateurs, alors que ceux dont on se rend compte quand on passe le cap de l'hébergement, c'est qu'ils sont apeurés. Quand ils viennent chez nous, on les prend dans nos voitures, on les ramène à Lille, ils ne savent absolument pas où c'est à plus d'une heure de route de Calais. On les ramène dans nos maisons, ils sont à notre merci. Donc en fait, la peur, elle est de leur côté, c'est ça qu'il faut comprendre.
Flo, tu as reçu de ces migrants chez toi ?
J'ai reçu, et moi ce que je voulais dire, c'est que ils sont mal à l'aise au départ, mais très très vite, ils ont de nouveau l'âge qu'ils ont, et ce qui est drôle à voir aussi surtout, par exemple, ils sont hyper lookés. Ils sont hyper lookés. Les coiffures, c'est vachement important. Ça veut danser tout de suite, ça veut rigoler tout de suite. Et c'est quand qu'on y va. Et de nouveau, allez, c'est urgent. On a qu'un week-end. Allez, on a de nouveau 20 ans. Et ça, ils sont très très émouvants par rapport à ça. Très souriants, très.
Moi, j'en ai pensé surtout que j'ai été surpris de voir que même si ce sont des cultures différentes, les centres d'intérêt de tous les humains de la planète sont en fait globalement les mêmes. On cherche tous à jouer, on cherche tous à danser et on cherche tous à écouter de la musique. C'est passionnant en fait.
On a Sophie Gigot qui est prof de philo en même temps, qui a du recul sur tout ça. Et dans ton bouquin, je ne sais pas si on l'a dit, c'est aux éditions Agone, qui sont de très bonnes éditions, hein, « Migrants à Calais, la vie en transit ». Il y a ce sous-titre qui m'intéresse, « La vie en transit ». Est-ce que ça ne dit pas quelque chose du monde dans lequel on vit aujourd'hui tous ? Parce qu'il y a quand même une seule planète, finalement. Hein, ces histoires de migration, on ne le dit pas assez, mais je veux dire, la majeure partie des migrants reste au sud, reste dans des pays déjà pauvres, déjà confrontés à des... Voilà, on a ici, à Calais, en France, une toute petite minorité, toute petite minorité des gens qui fuient finalement des désastres écologiques parfois, mais souvent économiques, liés aux politiques menées par les multinationales ici, chez nous, et ça entraîne plus que jamais un transit des humains au niveau de la planète, hein, parce qu'il y a aussi les moyens de transiter. Hein. Qu'est-ce que ça dit du monde d'aujourd'hui, finalement ? Que disent ces migrants du monde d'aujourd'hui ?
Ils nous disent que, finalement, l'installation qui nous semble aller de soi est un privilège. Et le transit, ce n'est pas la joie du nomadisme ou la joie du tourisme à l'occidental quand on en a les moyens. Le transit, c'est une vie où on est entièrement soumis à la contingence. C'est une vie d'une grande dureté. Et c'est finalement une vie suspendue, une sorte de parenthèse entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc, elle ne peut être supportée et supportable que s'il y a bien un point d'arrivée. Et donc là, moi, ce qui...
Dans le Cas-de-Calais, du coup ?
Comment ?
Dans le Cas-de-Calais, du coup, ça va être très frustrant, là.
Oui, mais ils arrivent en Angleterre. Ils y arrivent tous. Et c'est pour ça que l'espoir reste. Il ne faut pas oublier que c'est un peu comme quand on débat sur la burqa ou ce genre de choses. On parle de 700 personnes. On a toujours l'impression que les migrants de Calais, il y a une horde, une invasion, une vague, une marée. Alors on les compte par milliers et centaines de milliers. 700 personnes. On ne peut pas absorber 700 personnes. L'Angleterre ne peut pas absorber 700 personnes. Il va y avoir un appel d'air avec le dispositif Frontex. Sérieusement. Je veux dire, il faut retrouver la raison. Monsieur Macron est le premier à reprocher à Leclésio ou à d'autres d'être sentimentaux et se présente comme ayant le monopole de la rationalité. Mais moi, je l'interpelle sur son degré de rationalité. Cette politique, elle est complètement irrationnelle et absurde. Et ce serait bien...
Elle est électorale.
Oui, enfin, elle est idéologique. Elle est idéologique. Et ça ne trompe personne.
Oui, parce qu'il s'agit de maintenir aussi des Français dans cette bêtise, dans cet état d'abrutissement hein, qui consiste à voir l'étranger comme un ennemi aussi. Hein. Ça a aussi un intérêt politique, évidemment.
Et aussi curieux que ça puisse paraître, on a rencontré beaucoup de Calaisiens qui nous disaient « Ah oui, ben, les migrants à Calais, on ne les aime pas parce qu'ils nous piquent, ils veulent nous piquer nos logements et notre boulot ». On disait, ah ben non, pas vraiment en fait. Hein.
C'est pas eux les coupables.
C'est pas tout à fait la situation. Et donc ça veut dire qu'ils sont sensibles à des rhétoriques politiques qu'on connaît bien et qui continuent à faire succès en les instrumentalisant.
Pour finir, là j'écoute Radio Campus et je veux ouvrir ma porte.
La même.
Je fais quoi?
Ah, ça tombe bien parce que tous les week-ends, on héberge. Là, on est en train de préparer l'accueil du week-end du 17-18 février avec un moment très festif où on est invité à un temps de danse et de concert à l'Hospice d'Avray ce dimanche. Et donc,
À Lille.
À Lille, exactement. Enfin, à Tourcoing. L'Hospice d'Avray à Tourcoing.
Ouais.
Et donc, on est en train de continuer à chercher des chauffeurs, des hébergeurs. Et on sera là pour vous encadrer, on sera là pour vous accompagner et franchir ce premier pas pour que la rencontre reste belle. Donc, vous pouvez... Il y a un numéro de téléphone de Migraction qui est le 06 20 27 57 66. Et puis, il y a une page Facebook que vous pouvez consulter et dont le lien, j'imagine, sera sur Radio Campus.
Bien sûr.
Le lien.
Bien sûr, André le fera très vite. C'est aussi notre résistance à nous, en fait, de faire ça. Hein.
Exactement. Vous n'avez pas les moyens de faire autrement pour vous opposer à cette politique, mais c'est tout simple. Vous passez un bon moment en ouvrant votre porte, celle de votre voiture ou de votre maison.
D'accord. C'est un excellent moment. Et je voulais aussi dire que non seulement on fait de très belles rencontres, mais on rencontre également les autres personnes qui ont fait la même démarche, puisqu'effectivement le dimanche après-midi on se rassemble plutôt. C'est un lapsus, mais on se rassemble parce que oui, on se ressemble un peu et on fait aussi de très belles rencontres, des gens qui habitent juste à côté de chez nous et qui font la même démarche. Et ça, c'est aussi enrichissant. De toute façon, c'est que du gagnant-gagnant dans l'histoire.
Oui, si je peux finir sur une anecdote, on a par exemple trois familles qui se sont rencontrées un dimanche et qui du coup, le week-end d'après, se sont regroupées dans l'une des maisons avec leurs hôtes respectifs autour d'un repas éthiopien cuisiné par l'un des migrants. Et ça veut dire que les gens s'emparent complètement de Migraction, de leur point de vue personnel. Et le réseau n'a pas une structure pyramidale, mais horizontale. Et chacun peut en faire quelque chose de tout à fait personnel et festif.
L'objectif final ? Plus de 100, 200, 300, combien?
Le week-end dernier, on était à 100. L'objectif, c'est 800. C'est qu'on prend tout le monde, en Belgique.
Ben oui, ben il faut sortir aussi de la propagande et de l'espace, du conditionnement dans lequel nous sommes pour effectivement dépasser, finalement, parce qu'on peut le faire. Les copains qui sont à Notre-Dame-des-Landes l'ont fait. On peut combattre des logiques politiques complètement dégueulasses, mais qui sont un petit peu dans l'air du temps, par une mobilisation citoyenne. On verra après pour le débouché politique qu'on trouvera. Je sais que ce soir même, Sophie, tu vas aussi travailler là-dessus, sur le débouché politique qu'on trouvera. Mais voilà, c'est ça. Et
Vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins. Enfin, si vous ne le faites pas pour eux, faites-le au moins pour vous, pour voir la mine renfrognée de Natacha Bouchard. Ça nous ferait tellement plaisir de la voir faire la gueule. Voilà.
En tout cas, comme on dit à Roubaix, où je vis, on ne parle pas, on agit. Parce que ça parle beaucoup dans les milieux militants. Mais là, c'est le moment d'agir et d'agir avec des moyens simples.
Sophie Gigot, Migrant à Calais, édition Agone. Et merci beaucoup d'être venue.
Merci de m'avoir
bon
invité.
Séjour à LM dans quelques minutes.
Merci Sophie.